Panorama économique.
C'est parti avec la rétrospective économique de la semaine sur Radio Capi à travers Panorama économique. Ce rendez-vous du week-end nous permet de commenter les faits ayant marqué la semaine avec un invité dans ce studio. Mais d'abord les titres. Plus de 1500 Congolais ont trouvé un emploi à la nouvelle société de transport. 326 000 dollars américains pour leur rémunération, donc de 3 mois, sont déjà disponibles. Et 900 000 dollars décaissés pour la fourniture du carburant Transco. Ceci en vue de maximiser les recettes des nouveaux bus dont une partie circule dans la capitale, a déclaré un conseiller du ministre du Transport et Voies de Communication. La semaine, nous avons également parlé de des navires de pêche destinés à la RDC saisis par des militaires angolais depuis le week-end passé. L'Angola accuse les pêcheurs congolais d'avoir pêché dans les eaux territoriales angolaises. Faut rétorquer les opérateurs économiques congolais. Entre-temps, le poisson s'est fait rare à Mwanda. Autre actualité, c'est la Direction générale des douanes assises, DGDA, et l'autorité des régulations des postes et des télécommunications au Congo, ARPTC, qui veulent contrôler les flux de télécommunications en RDC. Ces deux structures ont signé un accord mercredi dernier. Objectif, empêcher les sociétés de télécommunications d'échapper au contrôle fiscal. Tous ces sujets et tant d'autres, nous en parlons dans ce numéro de Panorama économique. Notre invité s'appelle Bertin Toumba. Il est président de l'Association pour la promotion de la métrologie et la normalisation à Promène. C'est un magazine d'information. Bertin Toumba, bonjour et bienvenue dans Panorama économique de ce samedi sur Radio Capi.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Alors deux voix pour vous présenter cette émission. Il s'agit de Paul Mayamba Matendo et François Kadima. Bonjour Paul.
Bonjour François, bonjour chers auditeurs.
Panorama économique, le dossier.
Commençons par le transport en commun en RDC, Paul Matendo.
Oui François, près de 326 000 dollars américains, c'est la subvention accordée par le gouvernement Matata Ponyo à Transport au Congo, Transco, pour la rémunération de son personnel pendant 3 mois. Transco, c'est cette société qui gère et exploite les bus commandés par l'exécutif central, dont une partie a été mise en circulation à Kinshasa depuis le 30 juin dernier. Les conseillers routiers et urbains du ministre des Transports et Voies de Communication l'a dit à Radio Okapi lundi dernier. Selon Richard Mukwala, près de 900 000 dollars américains ont été également donnés à Coville pour la fourniture du carburant à Transco. Il nous parle ici de la façon dont les recettes générées par ces bus vont être gérées et les nombres d'emplois créés à travers Transco. Richard Mukwala, joint au téléphone par François Kadima.
Nous avons 210. Avec les 210, nous avons les ratios de 7 personnes par bus. Lorsque vous calculez soit 210, eh bien vous avez le minimum de 1400 emplois directs que nous créons. Et là, vous ne mettez pas le personnel administratif. Donc, vous pouvez aller au-delà de 1420 ou 1430 emplois. Nous aurons 510. Rendez-vous compte maintenant que nous aurons un ratio de 7 personnes par 10. Donc nous allons créer 7 fois 510. Ce sont des emplois directs que nous allons créer. À Kinshasa, qu'en province. Et les recettes seront gérées comment? De manière rationnelle, pour que ces bus qui sont achetés par le gouvernement, que Transco soit en mesure, au bout d'un certain temps, d'acheter ses propres bus. Il faut que Transco arrive à accroître son unité de production. Le gouvernement n'a pas intérêt à obtenir des recettes de Transco, mais de voir Transco prospérer. Parce que ça, c'est un capital que le gouvernement donne à Transco. Mais à un certain moment, Transco fera le bilan.
Voilà, c'était là les conseils routiers et urbains du ministre des Transports et Voies de Communication, Richard Mukwala. Nous allons nous tourner à Bertin Toumba. Le gouvernement subventionne Transco et pendant 3 mois, la somme de près de 326 000 dollars américains, donc pour payer son personnel pendant 3 mois. Est-ce que c'est une bonne manière d'aider Transco à aller de l'avant du moment où on sait que d'autres sociétés de transport comme Cititrain et Stuc n'ont pas à faire long feu?
Merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est une initiative à encourager et féliciter, mais encore faut-il pour pérenniser cette entreprise qu'il y ait des mécanismes de bonne gestion et qu'on puisse surtout mettre sous pied un tarif rémunérateur qui tienne compte, c'est vrai, du pouvoir d'achat, mais aussi des exigences de gestion qui tiennent compte, par exemple, des aspects liés à l'entretien et à l'amortissement de l'outil. Notre souhait est que cette aventure puisse s'étendre jusqu'à l'intérieur du pays.
et subventionner, vous pensez que ça va permettre d'abord pendant 3 mois payer les agents et par la suite Transco sera en mesure de payer seuls les agents, entretenir le matériel?
Oui, c'est vrai que pour un bon départ, il fallait lui assurer une certaine visibilité et assurer par exemple que le minimum soit fait, notamment en termes de rémunération et des intrants nécessaires comme le carburant et les pièces de rechange. Je crois que c'est très important qu'on lui donne, qu'on puisse lui donner cette bouffée d'oxygène. Il faut qu'il y ait vraiment, on établisse un équilibre entre le pouvoir d'achat, il faut que les tarifs tiennent compte de ça, mais aussi qu'on tienne compte aussi des exigences de bonne gestion, que le tarif puisse permettre à ce que l'entreprise puisse organiser des entretiens réguliers et puisse assurer aussi l'amortissement de l'outil de travail. Il faut qu'il y ait cet équilibre-là.
Voilà, merci Monsieur Bertin Toumba. Je rappelle que vous êtes président de APROMEN, qui signifie...
Association pour la promotion de la métrologie et la navigation en République démocratique du Congo.
Prenons une autre actualité de la semaine. 2 navires de pêche battant pavillon congolais, c'est-à-dire avec un drapeau de la RDC, ont été arraisonnés par le militaire angolais de la province de Cabinda le week-end dernier. Paul Matendo nous en parle.
L'information a été confirmée mardi par l'administrateur du territoire de Mwanda dans le Bas-Congo. La cause de cette saisie serait que le poisson contenu dans ces bateaux aurait été pêché dans les eaux territoriales angolaises. Les autorités de Mwanda qui rejettent ces allégations affirment que des démarches sont en cours pour récupérer les 2 navires. Danny Kinzanita nous en parle.
Il s'agit des navires Bossa 1 et Bossa S1 dont l'équipage composé de 7 Congolais et 5 Chinois appartiennent à une entreprise chinoise de pêche basée à Mwanda. Selon la Fraternité pour les droits de l'homme, une ONG des droits de l'homme de cette cité, au moment de leur arraisonnement, ces bateaux contenaient 2 tonnes de poissons destinées à la vente dans la cité de Mwanda. Dans un communiqué de presse rendu public hier lundi par cette ONG, ces bateaux ont été acheminés sous escorte des navires de guerre angolais à la province angolaise de Cabinda au motif qu'ils ont pêché dans les eaux territoriales angolaises. Allégation que rejette cette ONG et les opérateurs économiques de ce coin du Bas-Congo. Willy Iloma, président de cette ONG, a affirmé qu'au moment de leur arraisonnement, ces bateaux se trouvaient dans les eaux congolaises. Comme conséquence, à l'heure qu'il est, il y a pénurie de poissons à Mwanda, car ces 2 navires alimentaient les marchés locaux. La Fraternité pour les droits de l'homme exige la libération sans condition de ces navires de pêche qui se trouvent toujours dans la province angolaise de Cabinda. Matadi, Danikindanzita, Écho d'économie.
Bertin Toumba, vous avez suivi l'actualité. 2 bateaux saisis et une pénurie de poissons à Mwanda. Ça vous inspire quoi?
Oui, ça montre que c'est un conflit qui était latent et qu'on n'a pas pu résoudre en temps voulu. Et cela m'amène aussi à dire que l'activité normative est importante, surtout peut amener à trouver des solutions là où le politique a montré ses limites. Je veux être clair en disant par exemple que si régulièrement les deux parties, les populations de rives se voient régulièrement, ils peuvent harmoniser les vues et éviter ce genre de problème.
Alors comment de telles situations devraient être gérées pour qu'il n'y ait pas de répercussions sur la population, surtout pour les denrées alimentaires? C'est aussi, j'imagine, un manque à gagner quand ces genres d'aliments disparaissent sur le marché, comme a signalé notre correspondant Danny Kindanzita.
Merci beaucoup. Le vrai problème, c'est que souvent, quand les politiques se rencontrent, ils oublient les aspirations profondes des populations. Il faut que désormais, quand il y a ce genre de problème qui se pose, on puisse impliquer les concernés qui sont les populations de la place. On doit intégrer leurs aspirations profondes et ces contacts doivent être réguliers pour que ce genre de problème ne se résolve plus.
Mais les concernés, ils sont accusés, donc les pêcheurs sont accusés d'avoir pêché dans un pays qui n'est pas le Congo, c'est ça le problème.
Oui, souvent, vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, les pays de la CEMAC ont décrété la libre circulation des personnes en 2014. Tout ça, c'est des choses qui doivent nous interpeller. Et nous sommes des populations sœurs qui doivent cultiver l'harmonie et ça doit être dans l'intérêt de tout le monde.
Alors par rapport au marché, quand ces aliments disparaissent, c'est quoi l'impact économique?
Ça va créer la famine, ça va être à la base des tensions sociales. C'est pour cela que je me dis, il faut que de manière régulière, les politiques et les populations puissent se rencontrer pour harmoniser les vues par rapport à ces questions-là.
Nous allons également parler de cet autre fait économique de la semaine. C'est ce protocole d'accord de collaboration signé la semaine à Kinshasa entre la Direction générale des douanes assises, DGDA, et l'Autorité des régulations des postes et télécommunications, ARPTC. Ces deux structures vont désormais échanger des données sur les flux de télécommunications en RDC. Selon le directeur général de la DGDA, Doro Guiza, la RPTC apportera une assistance qui va lui permettre un recouvrement optimal de l'impôt sur les télécommunications. Dites-nous en plus, Paul Matendo.
Par cet accord de collaboration, la Direction générale des douanes et accises, DGDA, a pris comme engagement, entre autres, de payer à l'autorité des régulations de la poste et des télécommunications au Congo, RPTC, la prime des contentieux lorsque les données fournies lui permettent de constater des infractions en matière d'accises. Cette prime sera versée dans le compte bancaire de l'RPTC, a indiqué le directeur général de la DGDA. Deo Rubiza a aussi mentionné que sa structure veillera au respect de la réglementation en matière de la tarification des télécommunications. Toutes ces mesures sont prises pour bien contrôler les flux des télécommunications. Deo Rubiza.
La DGDA bénéficiera de l'expertise de la RPTC pour avoir des informations de manière à mieux maîtriser le flux des télécommunications. Vous savez que le code des accises soumet au paiement des droits et taxes les communications. Et la RPTC est l'organe officiel habilité, n'est-ce pas, à communiquer, à avoir la maîtrise de ces flux. Donc la DGDA bénéficiera de cette expertise.
Pour sa part, l'RPTC s'est dit prête à accompagner la DGDA et à mettre à sa disposition son expertise. Oscar Manikunda, président de l'RPTC.
En effet, nous allons, à travers notre expertise, et surtout à travers l'outil technique que nous disposons, donc nous pensons que avec tous ces outils-là, nous allons devoir apporter toutes les informations à la DGDA afin de lui permettre de pouvoir asseoir les taxes sur sa matière.
Avec la signature de cet accord, les deux structures estiment que les télécommunications en RDC ne vont plus échapper au contrôle fiscal.
Voilà qui est bien dit, Paul Matendo. Alors, Monsieur Bertin Toumba, la DGDA veut maximiser les recettes dans le secteur des télécommunications avec l'expertise de l'autorité des régulations de la poste et de télécommunications au Congo, ARPTC. Est-ce que cette collaboration entre la DGDA et la RPTC permettra réellement de contrôler les flux de télécommunications comme le veut bien le directeur général de la DGDA, Deoro Guiza?
Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est le vœu que nous émettons tous, que ce partenariat puisse permettre à ce qu'on puisse tirer le maximum de ce que génère ce service dans notre économie. Parce que nous, par exemple, nous avons toujours estimé que la contribution de ce secteur au budget de l'État n'a jamais été à la hauteur de ce que toutes ces sociétés engrangent comme gain sur le dos de la population. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est que il faut aussi intégrer l'aspect technique de la chose, ne pas se limiter à l'aspect fiscal. C'est là que je vois l'intérêt qu'il y a, par exemple, que des structures de contrôle technique comme l'OCC puissent participer aussi, de manière à ce que tout ce que ces entreprises nous présentent comme paramètres, en termes, par exemple, de débit pour les services Internet, puisse être respecté. Aujourd'hui, nous sommes tous en train de souffrir par rapport au débit, par rapport à la qualité du signal qu'on donne sur Internet. On ne sait pas décharger un des documents aujourd'hui qui nous viennent de l'extérieur. Vous voyez? Donc ça, il y a des aspects liés à la fiscalité, des aspects liés à la technique qui doivent être respectés.
Donc, la collaboration entre les deux structures ne suffit pas pour bien contrôler l'afflux de télécommunications et générer les recettes?
Oui, oui. Moi, je crois qu'il faut aller au-delà de l'aspect fiscal et voir l'aspect normatif des choses et intégrer les aspects techniques pour améliorer la qualité. Donc là, je vois d'une part le ministère de PTT et d'autre part l'Office Congrès du Contrôle.
Est-ce que cet accord ne suppose pas une évasion fiscale dans ces secteurs des télécommunications?
Je crois que le thème que j'ai entendu, c'est le thème optimisé. Ça veut dire quelque chose, quelque part, il y a bien sûr des entrées, mais ce n'est pas à la hauteur des attentes.
Pas à la hauteur des attentes. Vous estimez à combien la hauteur des recettes qui peuvent être générées par dans les secteurs de télécommunications, selon vous?
Parce que quand je vois l'ampleur de l'activité, je pense que la contribution de ces secteurs au budget de l'État devait être plus consistante qu'il ne l'est actuellement.
Plus consistant, voilà. Ça veut dire?
Bon, je veux dire, au stade actuel, je ne peux pas vous donner des chiffres, mais je sais, par exemple, que tel que nous voyons les choses, par exemple, ce dossier qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, liée à la gestion de 243.
Ouais.
Au stade actuel, on ne s'est même pas évalué. Voilà.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
En plus bref, au Kasaï oriental, un train de marchandises a déraillé lundi soir à Luputa. Ce train qui venait de Kamina transportait essentiellement de citernes de carburant et des fils de goudron. Les témoins attribuent cet accident à la vétusté du chemin de fer et à l'intensité de l'exploitation depuis l'affectation des nouvelles locomotives.
Une centaine de faux imprimés des valeurs saisies à Lubumbashi. Résultat du lancement de l'opération du contrôle technique des véhicules et l'autorisation des transports pour l'exercice 2012. Selon les chefs de division à la direction des recettes du Katanga, cette situation constitue un manque à gagner pour les trésors publics. Il ajoute que le réseau de ces faussaires est bien identifié et sera bientôt démantelé.
Rendons-nous à Kisangani en province orientale où le guichet unique ouvert il y a 2 semaines pour la perception de taxes dues à la province pourraient réaliser plus de 180 000 dollars américains mensuellement. Pour rappel, ces mêmes taxes généraient 210 000 dollars pour toute la province orientale le mois passé. Ces chiffres ont été révélés donc par le ministre provincial de Finances. Pour lui, ces recettes pourraient accroître avec la nouvelle identification des assujettis en cours dans la ville de Kisangani.
Toujours à Kisangani, le consul général de la Grèce à Kisangani promet de mobiliser les opérateurs économiques de sa communauté pour la relance des activités dans la province orientale. Il a dit mercredi au terme d'une visite de 2 semaines dans cette ville. D'après lui, le moment est propice pour que les opérateurs économiques grecs, notamment les planteurs et transporteurs, reprennent leurs activités qui sont restées en veilleuse pendant plus de 2 décennies.
Nous allons revenir à Kinshasa pour parler des travaux de la commission tarifaire qui se sont clôturés mercredi. Ces assises ont réuni les experts de la Direction générale de douane assise, DGDA, du gouvernement et les opérateurs économiques. À l'issue de celle-ci, les participants ont recommandé, entre autres, une distinction sur la perception de certains droits et taxes à l'importation des véhicules d'une certaine catégorie. Cela fait suite aux difficultés sur la nomenclature douanière sur les véhicules d'au moins 12 places assises. Selon le décret numéro 12/048 du 20 décembre 2012 du Premier ministre Augustin Matata Ponyo portant allègement fiscal et douanier, la perception de certains droits et taxes à l'importation des véhicules de transport en commun d'au moins 12 places assises, chauffeurs inclus, a été suspendue pour une durée de 12 mois. Sur terrain, ces véhicules sont toujours classés à la même position tarifaire que d'autres non visés par le dit décret. Au cours de ce travaux de la commission tarifaire, il a été proposé de créer des sous-commissions nationales spécifiques qui tiennent compte de cette situation et y apporter des solutions. Voilà, Monsieur Bertin Toumba, un mot sur l'une ou l'autre actualité.
Ok, je crois que l'actualité s'est été trop riche, mais encore une fois, comme nous l'avons toujours dit, partout on parle économie, partout on parle technique, la norme et la mesure ne sont pas loin. Tout à l'heure, vous parliez de véhicules. Il est important que le Congo cesse d'être un dépotoir. Ces genres de véhicules qui ne sont pas acceptés ailleurs trouvent... leur place en RDC, avec tout cela, tous les risques que cela comporte. Hein, je vais vous donner un exemple. Tous ces véhicules qu'on appelle esprit de mort, vous savez qu'il y a des pays où ces véhicules ont été conçus juste pour transporter la marchandise. Quand ça arrive ici, toutes ces transformations que ces véhicules subissent font que, par exemple, quand on élève, on met les bancs là où on n'avait pas prévu le banc, et les gens se mettent dessus, le centre de gravité monte et cela rend le véhicule instable. C'est ça qui est à la base de tous les accidents qu'on est en train de connaître dans ce pays. Donc, je crois que c'est une bonne piste que le gouvernement trace là. Nous devons, à la fin, obtenir des normes claires en la matière.
Mais la mesure du Premier ministre souffre d'application sur terrain, parce qu'il y a le véhicule de 12 places, Donc assises, oui. Chauffeur inclus, exempté de payer les droits et taxes durant, donc pendant 12 mois. Oui. Alors que sur terrain, ces véhicules, de fait, ne sont pas exemptés. La taxe et droits, donc se font payer pour tous les véhicules sans distinction. C'est ça l'inquiétude des opérateurs économiques.
Bah, moi, je pense que ça, c'est peut-être des questions administratives qui devraient trouver solution d'ici là.
Matière première. Parlons du pétrole avec cette demande de l'ONG internationale WWF. Elle souhaite que le gouvernement congolais applique les lois qui interdisent l'exploitation du pétrole dans les zones protégées. René Ngongo, coordonnateur de cette ONG en RDC, appelle les autorités congolaises au respect des accords signés avec les partenaires internationaux en cette matière. Il réagit au fait que l'association Soko International aurait obtenu un permis d'exploitation du pétrole dans les parcs Virunga. René Ngongo est joint au téléphone par Radio Okapi.
Nous avons seulement demandé avec insistance au gouvernement de prendre en compte les lois de la RDC, notamment la loi sur la conservation de la nature, qui interdit toute activité susceptible de nuire à l'environnement, qui est prohibée dans les aires protégées ainsi que dans les zones interdites. Parce que Soko a obtenu du gouvernement un permis d'explorer dans le bloc 5 qui couvre environ 85% du parc national de Virunga. C'est un permis qui est autorisé par les autorités compétentes. C'est comme ça que nous disons, ce permis entre en contradiction non seulement avec les lois congolaises, mais aussi par rapport aux engagements. Comme vous le savez, notre pays a signé des engagements avec la communauté internationale. Et récemment, il n'y a pas deux semaines, les comités du site du patrimoine de l'UNESCO venaient encore de réitérer la demande à l'État congolais d'annuler tous les permis d'exploration pétrolière se trouvant à l'intérieur du parc national de Virunga.
Pertin Toumba, le gouvernement signe des accords avec des partenaires internationaux, mais on dit aussi qu'il aurait accordé un permis d'exploitation à une entreprise. Qu'est-ce que ça signifie tout ça?
Ouais, bon, excusez-moi de revenir par toujours sur mes dadas qui sont la normation de la métrologie. Vous savez, le principe de base de l'activité normative, c'est le consensus, l'ouverture et la cohérence. On ne peut pas, dans un contexte normal, avoir des textes qui ne sont pas cohérents, où il y a des contradictions. Et c'est là que j'ai dit tout à l'heure, si c'est un problème d'ordre administratif, ça doit être résolu au niveau administratif. Voilà. Si, quand on prend des engagements, il faut les respecter tout simplement.
Mais nous avons des richesses ici, le pétrole, une matière première, oui. Mais il y a des zones protégées dans lesquelles on trouve du pétrole. Oui. Alors qu'est-ce qu'il faudrait? Parce qu'il faut aussi exploiter ce pétrole, oui. Ces zones-là sont également protégées, oui. Éviter d'exploiter le pétrole.
C'est un choix à faire, une option à prendre, soit protéger, soit exploiter. C'est là que je me dis, il faut quelque part voir de quel côté pense ses intérêts, aller vers ses intérêts tout simplement. Vous voyez ça, voilà.
Mais du moment où on veut que cette exploitation, quelque part, je sais que ce sont des sociétés internationales,
oui.
Telles que Soko cité dans cet élément,
oui.
Et que cette exploitation profite également à la population locale.
Oui.
En quoi cela peut gêner certaines organisations dont WWF qui les dénoncent?
Vous savez qu'aujourd'hui, tous ces défis qui sont les défis de la mondialisation font l'objet de normes. Aujourd'hui, il y a une norme qu'on appelle la norme sur la responsabilité sociétale. Au lieu de gérer comme par le passé, aujourd'hui, une bonne gestion demande à ce qu'on puisse impliquer toutes les parties prenantes. Il faut que tout le monde se mette sur la table, que chacun sache qu'est-ce qu'il a à gagner là-dedans. C'est là qu'on parle de la responsabilité sociétale. Il faut, par exemple, que cette politique s'installe chez nous ici. On ne peut pas exploiter des entités en ignorant les populations autochtones. Il faut les impliquer. Aujourd'hui, ces normes-là intègrent tout ce qui est lié aux droits de l'homme, aux droits des consommateurs, et tout ça, à la protection de l'environnement. Il faut intégrer tout ça dans la démarche. Voilà.
On va terminer par cette question qui concerne particulièrement vous-même. Vous produisez un magazine Apromène.
Oui.
Ça signifie quoi?
Je vous ai dit tout à l'heure qu'Apromène, c'est l'association pour la promotion de la métrologie et la normation RDC.
De quoi vous parlez dans ces magazines?
Bon, nous allons au-delà du magazine. Le magazine, c'est un des outils de sensibilisation. L'association a été créée pour amener les Congolais à intégrer dans leur vie quotidien les vertus de la normation de la métrologie.
Métrologie, normalisation, clairement, c'est quoi en juste?
Merci beaucoup pour la question. La métrologie, c'est la science et l'art de mesurer. L'activité qui vous permet d'effectuer des mesurages et avoir confiance aux résultats de la mesure. Okay. Aujourd'hui, par exemple, quand vous allez à une station de service pour acheter du carburant et que l'indicateur montre bien 10 litres, vous devez vous assurer que c'est vraiment 10 litres qu'on vous a servi. Quand vous allez voir un médecin, imaginez que le thermomètre est défectueux, qu'on vous impute une fièvre que vous n'avez pas. Au lieu de vous soigner, on va vous tuer. Il faut les mesurer dans tout ce que nous avons comme activité. La métrologie a trois branches. Il y a la métrologie scientifique, celle qui consiste à établir les unités, celle qui consiste à veiller à ce qu'on ait les mesures les plus précises possibles. Vous savez que les mesures sont importantes dans toutes les activités, allant de balances conduites au marché, au centre de recherche. Est-ce qu'un avion peut voler sans qu'on tienne compte de mesures? Tout ce qu'on a comme crash d'avion, c'est généralement dû aux questions de mesures. Le crash qu'on a déploré du côté du Brésil, c'était un capteur qui n'avait pas bien marché, qui avait indiqué de fausses températures et une mauvaise altitude. Tout ça, c'est lié à la mesure. Les mesures sont importantes pour la vie de l'homme. Par rapport à la normalisation, nous disons que c'est l'activité qui vous permet d'établir les normes, de veiller à ce qu'elles soient connues et qu'on puisse les appliquer. Une norme est produite pour résoudre un problème qui se pose dans la société. Un problème lié à la qualité, lié à la sécurité. Quand on dit que ce n'est pas dans les normes, on sous-entend que ce n'est pas bon. La norme, c'est un document qui reprend les spécifications techniques. Imaginez par exemple, un exemple que nous donnons souvent, l'exemple du papier A4, qui vient de la Chine, qui vient du Brésil, qui vient de l'Inde, des États-Unis. Il est utilisé sur une imprimante qui vient de n'importe où.
Imaginez qu'il est A4.
Il est A4, vous comprenez? A2 et 3. Si on n'avait pas établi ces codes-là, comment pouvait se comporter le marché du
papier? Vous avez fait quel constat sur la métrologie, la normalisation RDC? Donc rien ne va dans les normes? Qu'est-ce qui n'est pas respecté? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que vous avez mis en place les magazines, donc...
Tout est parti d'un constat. Je pense que la situation que vit notre pays nous interpelle tous. Nous sommes tous membres de l'élite du pays et nous avons mené des réflexions pour voir quel peut être notre apport pour mettre un terme au paradoxe congolais, qui est celui d'un pays potentiellement riche, mais avec des populations pauvres. Nous avons, pour apromène, estimé que l'absence de la politique de normalisation et métrologie était notamment une des causes profondes de cet état de choses. Alors, nous organisons des campagnes de sensibilisation, des journées de réflexion, et comme nous avons eu l'honneur en 2011 d'être invités au niveau du Sénat, et où nous avons mené un lobbying. Aujourd'hui, s'il existe une proposition de loi, c'est suite à cette campagne que nous avons menée au niveau du Sénat.
Sur la métrologie et la normalisation.
Sur la métrologie et la normalisation, il y a une proposition de loi qui a été produite après notre passage. Parce qu'en cette matière-là, le Congo est parmi les derniers pays au monde.
Et je vous sens trop optimiste.
Oui, je crois parce que cet honneur qu'on nous a accordé en nous donnant la tribune du Sénat, nous a permis de parler aux législateurs qui ont pris conscience de la chose. Aujourd'hui, la normalisation et la métrologie sont des outils incontournables, surtout dans le contexte de la mondialisation. Je crois que nous aurons l'occasion d'en parler en long et large.
Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Paul Matendo, on va quitter les auditeurs pour ce samedi.
Tout à fait, je dis aux auditeurs bon week-end.
Oui, bon week-end à tous. Je vous signale que notre invité était Bertin Toumba de la PRONEM. APRONEM, c'est l'association
pour la promotion
de la métrologie et la normalisation
en RDC.
À la semaine prochaine. Merci et au revoir.